Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Sidonie Bonnec sur France Bleu. Minute Papillon.
Bonjour et bienvenue. Dimanche, vous allez lire vos députés. L'occasion, dans Minute Papillon, de découvrir les coulisses du Palais Bourbon, cette ruche qui élabore les lois et régit votre quotidien. Avec quelques petites surprises, vous allez voir, c'est une véritable ville dans la ville. Et tout de suite, voici l'histoire bouleversante de la première et dernière femme condamnée pour avoir pratiqué des avortements. Bonjour Florence Monteil.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir dans Minute Papillon, chef du service culture du magazine Notre Temps, et vous raconter ce mois-ci dans ce magazine un grand destin, l'affaire Giraud, une femme sur l'échafaud. Alors la scène se passe le 26 mai 1943, nous sommes à Cherbourg, en Normandie, et une jeune femme tient une lettre entre ses mains. Qui est-elle ?
Alors elle s'appelle Marie-Louise Giraud, elle a 39 ans, elle est toute jeune, c'est une mère de famille, elle a deux enfants, elle est officiellement blanchisseuse à domicile, mais bon, elle a une autre activité qui lui vaut d'être en prison, elle est en prison à ce moment-là, depuis 6 mois, et elle vient de recevoir une convocation, elle attend son procès, et là, elle reçoit une convocation pour comparaître à Paris, devant un tribunal qui s'appelle le tribunal d'État, qu'elle n'a aucune idée de ce que c'est, elle ne comprend absolument pas pourquoi on l'expédie à Paris. Et donc, elle va vivre une séquence de notre histoire sous ce régime de Vichy qui va l'amener effectivement sous la guillotine.
De quoi est accusée Marie-Louise Giraud ?
Alors, elle est accusée d'avoir commis, elle a avoué, hein, donc les choses sont claires, avoir pratiqué 27 avortements. Donc, l'avortement est illégal, mais il est à cette époque particulièrement réprimée, parce qu'on est sous le maréchal Pétain, sous le régime de Vichy, à une époque hyper nataliste. Et donc, effectivement, empêcher la naissance d'un enfant, c'est considéré comme un crime.
Il faut rappeler pour quelles raisons ces femmes se font avorter. Quel genre de femmes elles croisent dans sa cuisine,
Marie-Louise Giraud ? Alors, elle a des profils très très variés, mais ce sont toujours des femmes qui sont dans une urgence, un désespoir, une détresse extrême. Donc, les maris sont le plus souvent prisonniers.
Parce qu'on est dans les années 40,
voilà,
donc.
On est en pleine guerre mondiale, sous occupation. Et donc, il y a des maris qui sont prisonniers en Allemagne, donc des femmes qui se retrouvent seules, qui peuvent se laisser aller à des aventures dont elles tombent enceintes et c'est une catastrophe. Donc elles veulent protéger leur mariage, donc elles cherchent à se faire avorter. Il y a des petites domestiques qui se sont fait plus ou moins contre leur gré engrossées par
violer.
Leur patron allemand. Donc il y a des viols. Il y a, faut imaginer ce que c'est, hein, les familles nombreuses, la pauvreté. On est dans une région qui est pauvre. Il y a beaucoup il y a des problèmes de ravitaillement. Donc, une nouvelle grossesse, quand on a déjà 5-6 enfants, pas beaucoup d'argent, c'est véritablement un drame. Il y a des femmes qui ont très peur pour leur santé aussi, qui ont déjà failli ne pas survivre à des accouchements. Donc, c'est tous ces profils qui viennent effectivement la solliciter pour essayer de faire passer cette grossesse.
Oui, c'était l'expression « faire passer ». Marie-Louise ne mesure pas du tout qu'elle est devenue une faiseuse d'anges. Et on est, comme vous le dites dans votre papier, au plus fort de la propagande nataliste du régime de Vichy. D'ailleurs, qu'a proclamé le maréchal Pétain le 20 juin 1940 ?
Alors, le 20 juin 40, donc on est 2 jours avant la signature de l'armistice, et il fait une espèce de bilan de pourquoi la France se retrouve dans cette situation. Et il dit, ce sont vraiment ces mots pour expliquer la défaite. Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés, voilà les causes de notre défaite. Trop peu d'enfants, c'est la première chose qu'il mentionne. Parce qu'effectivement, les enfants, c'est les futurs soldats. Donc, ils sont les garants de la défense du territoire.
Quel enfer. Florence Monteil, dans votre dossier du magazine Notre Temps, on découvre quelques illustrations, quelques-unes de ces affiches pro-natalité. Et c'est passionnant de voir à quoi elles ressemblent. Vous pouvez nous en décrire une ou deux ?
Bah, on a ces images, ces dessins où on voit une mère radieuse portant un bébé dans ses bras, ses petits poupons adorables. On a un groupe d'enfants qui portent à bout de bras la représentation de la France, de l'hexagone français. Tout ça bourré de tendresse et de joie de vivre. Et comme slogan, on a « Toi qui veux rebâtir la France, donne-lui d'abord des enfants. Sans enfants aujourd'hui, plus de France demain. » C'est explicite, hein, c'est très clair. Avorter, c'est refuser ton bonheur en détruisant la vie. Tu risques la mort, c'est ruiner ta santé, etc. Et il faut quand même dire, Marie-Louise Giraud, elle passe devant ses affiches tous les jours, hein, parce que les campagnes d'affichage, de distribution de livrets, c'est omniprésent. Et ça ne l'alerte pas. Elle se dit pas, tiens, il se passe quelque chose, l'époque change. Et mon activité de faiseuse d'anges me met peut-être en danger. Elle ne l'évalue pas du tout.
Et il y a une autre loi dont vous parlez d'ailleurs, qui est passée le 15 février 1942, et qui renforce quoi ?
Alors, qui renforce justement la répression de l'avortement. Mmh. Jusqu'à ce moment-là, une avorteuse est passible de 10 ans de prison. Mmh. Là, ça change, ça peut passer devant ce fameux tribunal d'État, le tribunal d'exception, et ça peut aller jusqu'à la peine de mort, ce qu'elle ne réalise pas du tout, Marie-Louise Giraud, parce que pour elle, elle restait un petit peu dans cette espèce de statu quo, mmh, où on sait très bien qu'il y a des avortements qui se pratiquent.
Les femmes n'ont pas le choix.
Voilà. Donc ça se fait, ça se pratique, la police ferme les yeux, on laisse un peu faire. De temps en temps, on arrête quelqu'un, pour l'exemple, mais ça va jamais très très loin.
Rien ne prédestinait Marie-Louise à devenir l'héroïne tragique d'un procès historique. Vous allez découvrir ce qui l'a menée à l'échafaud tout de suite dans Minute Papillon sur France Bleu.
France Bleu, Minute Papillon.
C'est un procès unique, retentissant. En 1943, une femme est condamnée à mort pour avoir pratiqué des avortements sur 27 femmes. Ce n'est pas la seule, bien sûr, mais le maréchal Pétain a décidé de faire un exemple, lui qui mène une politique nataliste en France. D'ailleurs, c'est lui qui fait aussi en sorte que la fête des mères soit célébrée chaque année. On crée même des chansons pour vanter le bonheur d'être mère. Écoutez cette création d'Eliane Célis, Être maman.
Être maman, c'est le plus beau. Contre son épaule, sentir une tête d'enfant.
Incroyable ce morceau, incroyable. Florence Monteil. Ouais, ouais. C'est vraiment un des tubes de l'année 1943, cette année où Marie-Louise est condamnée pour avoir pratiqué des avortements, et Pétain et quelques chanteuses vendent le fait qu'être maman, c'est merveilleux par-dessus tout. Mais c'est pas merveilleux par-dessus tout à l'époque pour ces femmes.
Pour beaucoup de femmes, c'est véritablement un cauchemar. Elles y laissent leur vie. Hein.
Vous êtes chef du service culture du magazine Notre Temps et vous publiez un dossier passionnant, bouleversant, l'affaire Giraud, une femme sur l'échafaud. Et c'est vrai que Marie-Louise, elle ne devait pas devenir cette héroïne et cette porte-drapeau, ou en tout cas cette victime de la politique du maréchal Pétain. Elle naît en 1903, près de Cherbourg. Elle grandit dans quel genre de famille ?
Alors à la campagne, dans une famille extrêmement modeste. Hein, son père est jardinier, sa mère est domestique. Elle voit sa mère s'abîmer, être humiliée, abîmée physiquement par ce travail. Elle va pas y couper, elle va devenir elle aussi domestique. Bon, elle est pas douée pour les études, elle a pas de talent particulier, Marie-Louise. Elle rate son certificat d'études et à 13 ans, elle se retrouve elle aussi domestique.
À 18 ans, on est en 1921, là Marie-Louise va découvrir la liberté.
Oui, parce qu'elle en a marre, hein, donc elle veut échapper à ce destin. Donc elle va à Cherbourg, elle quitte la campagne pour la ville, elle devient serveuse dans un café-restaurant et là effectivement elle va se dégourdir très très vite. On spécule, hein, parce que moi je ne l'ai évidemment pas connue, mais on imagine que c'est quelqu'un qui a envie de vivre, quoi. Elle a une envie de simplement vivre, d'être heureuse, d'échapper à un destin un peu accablant. Elle n'est pas particulièrement jolie, c'est une brune un petit peu ronde, mais elle est vive, elle aime faire la fête, donc elle va au contact des clients, le plaisir de boire, de s'amuser, elle va découvrir effectivement une forme de liberté et un peu déraper. C'est-à-dire qu'elle va se mettre à vivre un petit peu au-dessus de ses moyens. Ça va l'amener d'ailleurs à commettre quelques vols, des petits larcins, pas des choses très graves, mais ça va quand même lui valoir une amende, puis un mois de prison, puis deux mois de prison. Elle va avoir comme ça trois condamnations. Et elle va ressortir d'ailleurs avec l'idée que, au fond, bon, la justice n'est pas si sévère. Hein, un petit peu de prison et on efface l'ardoise.
Et en 1929, Marie-Louise va épouser Paul Giraud. Ils ont 5 enfants ensemble. Il n'y en a que 2 qui vont survivre. Et puis elle va attendre longtemps son marin qui est parti à la guerre. On rappelle le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Et là, son destin bascule en décembre 1940 quand elle surprend Gisèle. Qui est-elle et que fait-elle ?
Alors c'est sa petite voisine Gisèle qui a 18 ans, qui n'est pas mariée et qui est enceinte. Mais Est-ce qu'elle voit Marie-Louise, elle passe voir sa voisine et elle la voit en train de prendre un bain de moutarde, un bain de pied de moutarde, qui était une des recettes qui circulaient sur comment faire passer un enfant, comment provoquer une fausse couche. Ça paraît absurde, mais ça, on mesure aussi le niveau de désespoir. Elle s'était prête à essayer plein de choses, hein, les idées tricotées, les fémurs de poulet, des décoctions diverses et variées.
Qu'elle s'insérait dans le vagin.
Absolument, ouais. dans la matrice, dans l'utérus. Pour provoquer une fausse couche. Donc là, Marie-Louise lui dit que ça ne lui semble pas bien efficace comme procédé et que ce serait peut-être plus logique de faire une injection d'eau savonneuse dans l'utérus. Mmh. Là, Gisèle, évidemment, essaie de lui demander son aide. Elle refuse dans un premier temps et puis finalement, elle se laisse convaincre. Et donc, elle va pratiquer son premier avortement sur cette jeune voisine, à même le sol de sa cuisine. Elle va prendre une poire de lavement, une canule, faire bouillir de l'eau pour faire fondre un morceau de savon et injecter cette eau savonneuse une fois, deux fois, et ça va finir effectivement par provoquer la fausse couche. Donc elle a mis au point une méthode.
C'est un commerce après pour Marie-Louise, peut-être une faiseuse d'ange.
Ouais. Alors ça va le devenir, pendant 6 mois il ne se passe plus rien, puis il y a un petit bouche à oreille qui va fonctionner, donc il y a quelqu'un, à nouveau une femme qui vient la voir totalement désespérée. Elle refuse, et cette femme lui propose de l'argent. Et là, évidemment, Marie-Louise Giraud, elle est comme tout le monde, elle n'a pas beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pénuries, et elle va se laisser embarquer là-dedans, donc elle va pratiquer ce nouvel avortement. Et petit à petit, effectivement, elle va en faire un commerce. Donc elle va faire payer entre 500 et 2000 francs. À l'époque, 2000 francs, c'est quand même le salaire d'un ouvrier. Un petit salaire, mais quand même salaire d'un ouvrier. Donc ça représente une somme quand c'est 2000 francs. Et elle va comme ça, de plus en plus, faire de plus en plus d'avortements.
Elle a fait passer les bébés de 27 femmes, selon l'expression consacrée, faire passer. Est-ce qu'elles ont toutes survécu à cette opération?
Alors une de ces femmes qui va mourir des suites d'une infection, d'une septicémie, début 42. Et elle va pas du tout se sentir coupable, Marie-Louise. La preuve en est que elle va continuer plus que jamais à faire des avortements. Elle pense que elle aurait dû aller à l'hôpital plus tôt et que c'est pas de sa faute s'il s'est mal soigné des suites de l'avortement.
Ce qu'il faut raconter aussi, ce qui va jouer en la défaveur de Marie-Louise, parce qu'il faut raconter que elle sera quand même décapitée, peine capitale, c'est que elle ferait aussi avec le milieu de la prostitution. Elle crée un autre business à côté.
On peut dire cette chose, c'est qu'elle avait un certain sens des affaires, à défaut d'avoir un sens moral. Donc, elle va à l'intuition, comme ça, vers des choses qui, effectivement, lui font gagner de l'argent. Donc, elle a déménagé, elle est dans un petit pavillon où il y a des chambres libres, et elle va se mettre, parce qu'elle a rencontré, elle est devenue amie avec une prostituée, Betty, et elle va, du coup, rendre service dans un premier temps, et puis après, la même façon, en faire un commerce, c'est-à-dire qu'elle loue les chambres à l'heure, à des filles en carte, comme on appelle les prostituées, donc qui font le trottoir, et elle va prendre 30 francs quand même par passe. Donc elle a un commerce, elle développe un commerce.
Bon, imaginez-vous, ça va forcément faire créer quelques envieux, créer quelques ennemis autour de Marie-Louise. Peut-être que ce sont eux qui vont la faire tomber. La suite du récit de cette affaire juste après Frédéric Goldman Jones. 1, 2, 3 sur France Bleu.
Minute Papillon. On en apprend tous les jours sur France Bleu.
Dans Minute Papillon sur France Bleu, vous plongez dans une époque où les hommes sont à la guerre et les femmes avortent clandestinement et pleurent sur leurs pas.
J'ai pleuré sur tes pas en murmurant tout bas la prière d'adieu d'un départ douloureux qui m'emplit de détresse. J'ai pleuré sur tes pas.
André Claveau, c'est un tube de l'année 1943. J'ai pleuré sur tes pas. Les hommes sont à la guerre. Les femmes avortent clandestinement à l'eau savonneuse, à l'os de poulet, à l'aiguille à tricoter. Vous imaginez cette époque? Et en 1943, une femme est condamnée à mort pour avoir pratiqué des avortements sur 27 femmes qui étaient en plein désarroi. Florence Montaille, vous racontez cette histoire extraordinaire dans le magazine Notre Temps. Cette affaire, l'affaire Giraud, une femme sur l'échafaud. Un jour, Marie-Louise va être dénoncée. Elle fait c'est pas un métier, mais elle pratique cette activité de faiseuse d'ange. Elle loue aussi des chambres aux prostituées. Elle prend une petite commission. Bref, elle est un peu sulfureuse, c'est sûr. Mais un jour, elle va être dénoncée.
Elle est dénoncée. Bon, qu'elle se soit fait des ennemis, c'est assez évident. Hein. Les voisins, ils voient défiler, y compris les clients des prostituées, des Allemands, des femmes qui rasent le mur en fin d'après-midi. Enfin bon, on sent bien, ils sentent bien quelque chose qui va pas. Elle est regardée de travers, vraiment. Mais encore pire, son mari vit ça extrêmement mal. Ils ont une relation, vous disiez, que c'est extrêmement dégradée. Elle a pris un amant. Elle a demandé à leur petite domestique de coucher avec le mari pour le distraire. Enfin bon,
oh, c'est une bonne idée.
Tout ça est très délétère. Hein. Tout ça est quand même c'est très très délétère. Et donc il y a une lettre anonyme qui va arriver en octobre 42 et probablement dans les archives, on n'a pas la preuve, mais plus que probablement, c'est le mari qui a envoyé cette lettre anonyme. D'ailleurs, il témoignera contre elle au procès. Il ne l'assistera pas dans les derniers instants avant la guillotine. Il ne réclamera pas son corps. Enfin bon, elle est là, elle va être livrée à elle-même. Et elle fait les frais, effectivement, un peu de son ignorance et de son arrogance dans ses activités.
Comment se passe, Florence Montaigne, le procès qui a lieu les 7 et 8 juin 1943 ? Est-ce que c'est un grand procès ?
Alors, c'est un procès qui finalement ne va pas tellement avoir de retentissement, ce qui est bizarre, puisque le choix de la juger devant ce tribunal d'exception, le tribunal d'État, était un choix politique, d'exemple pour l'exemple. Il ne va pas tellement avoir de retentissement dans la presse, et il n'est pas public, il n'y a même pas de jury populaire, puisque c'est un tribunal qui est là pour juger les crimes contre la nation, donc l'avortement en est devenu un, et ce sont des magistrats qui jugent, parce que les jurys populaires sont réputés trop cléments. Donc vraiment, c'est un tribunal pour l'exemple. Voilà, son avocat lui dit « Ne vous inquiétez pas, on guillotine difficilement des femmes. Il faut que ce soit vraiment un crime de sang, certainement pas pour des avortements. »
C'était jamais arrivé.
Ouais. C'est jamais arrivé. Et les femmes ont toujours des réserves à guillotiner une femme. Il faut vraiment que ce soit un crime de sang assez épouvantable. Hein. Il y a eu quelques précédents avant. C'est des femmes qui ont quand même assassiné à coups de hache, qui une mère, qui un mari. Enfin bon. Donc, elle est relativement confiante. Et le pire, son avocat lui dit, le pire, ça pourrait être les travaux forcés à perpétuité. Et même ça, elle n'y croit pas. Elle pense qu'elle va avoir quelques années de prison et qu'elle ressortira. Voilà. Et c'est pas ce qui va se passer.
Et le verdict tombe, et il est terrible.
Voilà, il est terrible. Je vous en cite quelques mots, parce que c'est donc pour l'ignoble besogne, pour sa conduite et sa moralité des plus mauvaises, elle est condamnée à la peine de mort, et conformément à l'article 12 du Code pénal, elle aura la tête tranchée. C'est explicite, direct, clair. Voilà. Elle fait appel, et donc c'est le maréchal Pétain lui-même qui va étudier l'appel, et il va le rejeter.
Oui, parce qu'il aurait pu l'agracier.
Il aurait très bien pu l'agracier, mais non, ils tiennent à cet exemple et donc ça va aller jusqu'au bout. Et donc le 30 juillet à l'aube, à la prison de la cour de la prison de la Petite Roquette à Paris, la guillotine est dressée et à 5h25 du matin, elle est exécutée.
Quels seront ses derniers mots ?
Alors oui, la petite histoire qui est très tendre, parce que ce que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est que c'était une mère très aimante. Ses deux enfants qui ont survécu de ses 5 grossesses, elle les adorait. Et donc elle va, quand on lui coupe les cheveux, avant d'avoir la tête tranchée, on lui coupe les cheveux. Et son avocat, qui est la seule personne qui l'accompagne, elle lui donne des mèches de cheveux en lui demandant de les transmettre à ses enfants. Alors, est-ce que ça a été fait ? Comment les enfants ont vécu ça ? Je signale quand même qu'il y a un film de Claude Chabrol qui raconte cette histoire en respectant assez la trame. Il y a des aspects qui sont évidemment, ça reste un film. C'est une affaire de femme avec Isabelle Huppert qui incarne Marie-Louise Giraud.
On lit votre article et votre dossier passionnant, Florence Montaigne, dans le magazine Notre Temps de ce mois-ci. Puis on regarde ce film aussi en complément. C'est un bonheur de vous avoir. Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt, nouvelles aventures. Tout de suite, vous allez pousser la porte du Palais Bourbon pour découvrir les coulisses de l'Assemblée nationale. Il y a des trucs sympas, vous verrez dedans.
Minute Papillon, le magazine joyeux de la culture sur France Bleu. Toute la semaine, 14h-15h.